Bonjour, je suis Salahidine Benzakour et bienvenue dans le podcast des experts comptables de nouvelle génération. Dans chaque épisode, vous trouverez des enseignements clés pour réussir la transformation de votre cabinet. Top départ pour ce nouvel épisode. Bonjour, bonjour, ma chère Raymonde, comment vas-tu?
Très bien, Salah, très bien, merci. Et toi?
Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, on s'est vu la semaine dernière dans une intervention. Il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, c'était pas juste avec des experts comptables. Et en discutant un tout petit peu avec toi, j'étais impressionné par ta façon de travailler. Et bon, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de verticaliser un peu mon offre pour les experts comptables en matière de transformation numérique. Et je me suis dit, OK, je vais lancer un podcast dans lequel je mets en avant des experts comptables de nouvelle génération. Et ben, il n'y a pas mieux que de commencer avec une femme qui a tout révolutionné et qui a surtout commencé à partir de zéro. C'est ça ou non?
Oui, tout à fait. J'ai commencé en 1994, ouais, à partir de zéro. Donc, mes premiers clients étaient au nombre de trois et c'était trois amis. Donc, ouais. Voilà.
Alors, Raymond, si tu veux bien, rapidement, donne-moi juste pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir un peu où est-ce que tu es, ta taille d'entreprise, juste un peu des chiffres clés pour qu'on puisse un peu te situer. Et par la suite, on va parler un peu de ton évolution et surtout de ton organisation qui est bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, du zéro papier, du conseil, du pilotage et tout, et tout, et tout.
Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes 15 collaborateurs. Ce qui a fait que j'ai créé la fiduciaire, c'est ma passion pour l'entreprise. Oui. Je suis une vraie passionnée d'entreprise et ici, nous sommes au nombre de 16 avec moi et tous passionnés d'entreprise avec des profils très différents. Donc, ça va du juriste, ça va de l'ingénieur de gestion, profil HEC et des comptables, bien évidemment. Donc, c'est le mélange de tous ces profils qui aujourd'hui fait le succès de l'entreprise et surtout la finalité et l'objectif, parce que l'objectif, c'est de fournir à nos clients, qui est au cœur de nos préoccupations, des tableaux de bord et des suivis qui leur permettent aujourd'hui de prendre des décisions en relation avec leurs objectifs d'entrepreneur et de pouvoir les mesurer au travers de nos tableaux de bord.
Alors, est-ce que juste quelques chiffres, par exemple, un nombre de clients, une taille d'entreprise, juste pour que, alors sans pour autant rentrer dans le détail, juste un ordre de grandeur.
Combien de clients, quels sont? On a approximativement 250 clients.
OK.
Approximativement 250 clients, oui.
Ok, parfait, très bien, très bien. Et en 1994 ou 94, ouais. Voilà, comment c'est venu cette idée de créer ton entreprise? Est-ce que tu étais dans l'univers des experts comptables avant, c'est ça?
Oui, j'ai eu l'occasion, donc j'ai fait la comptabilité et puis j'ai eu l'occasion d'entrer dans une entreprise où le comptable avait disparu soudainement, laissant ses dossiers en plan. Et c'était une très grosse structure ici en Belgique et le patron de cette entreprise, qui lui-même n'avait pas des compétences de comptabilité, était un petit peu démuni. Donc, je suis allée là-bas, j'avais 25 ans et je proposais mes services et je lui ai proposé de gérer sa partie fiduciaire. Il m'a laissé faire, il est tombé directement en dépression, il a été absent pendant 3 ans et je me suis éclatée parce que j'avais vraiment carte blanche pour gérer et m'amuser comme si j'étais le boss, mais sans en prendre vraiment la responsabilité, puisque je ne l'avais pas officiellement vraiment. Mmh. Là, je me suis vraiment éclatée et j'ai vraiment pu constater que j'avais des aptitudes pour ça et surtout que j'adorais faire ça.
D'accord.
Quand la personne est rentrée, ça n'a plus pu fonctionner parce qu'on n'avait pas la même vision du métier et j'ai donc préféré partir et me lancer à ce moment-là seule, en repartant de zéro, bien entendu.
Parfait. OK. Alors, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais commencé avec trois clients, trois amis. OK. Alors, parle-moi un peu de comment ce démarrage entre le moment où tu as créé jusqu'au moment de ton premier salarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'entreprise ou comment ton entreprise a évolué?
Alors, j'ai démarré donc toute seule. Je travaillais chez moi dans le grenier que j'avais un petit peu aménagé, etc. En 94, en 95, j'ai eu ma petite fille. J'ai eu une petite fille.
Oui.
Puis, un an et demi après, j'ai eu des jumeaux.
Waouh.
Et là, c'était un petit peu chaud. Donc, il fallait que je m'organise. Comme j'ai toujours été et je suis toujours très sélective au niveau des clients, ben j'ai vraiment besoin d'avoir une relation de confiance avec mes clients et j'ai besoin de m'amuser dans mon travail. Ben, je m'étais fort limitée. Donc, du coup, financièrement, c'était un petit peu juste pour mettre les trois enfants à la crèche. Et arrêter, c'était hors de question. Donc, j'ai préféré trouver une personne pour venir en renfort au bureau et comme ça c'était plus facile.
D'accord. Et tu dis que tu es sélective, c'est-à-dire que tu refuses des clients?
Très régulièrement, oui.
Ok.
Oui. De moins en moins, parce que comme le bouche à oreille s'est fait et que maintenant il y a un certain volume, il y a naturellement toute une partie de clientèle qui ne vient pas vers nous. Je ne suis intéressée que par les vrais entrepreneurs, donc les gens qui ont des objectifs, qui ont des projets d'entreprise, qui ont envie de se développer. Je n'aime que les entreprises qui veulent changer le monde. Ceux-là,
wow.
Je veux les aider à changer le monde. On est une équipe ici de gens passionnés et voilà. Et celui qui n'a pas cette optique-là ou il ne nous intéresse pas et on ne va rien lui apporter, donc il y a suffisamment d'autres bureaux plus techniques qui vont lui juste faire ce dont il a besoin et au niveau législatif, et ça s'arrêtera là, et c'est très bien pour lui. Ici, il paiera un service qu'il n'utiliserait pas.
D'accord. Alors, parle-moi de tes services. Quand tu dis il va utiliser un service, mais est-ce que vous faites autre chose que la tenue comptable, madame?
Oui, bien sûr, la tenue comptable, c'est un outil qui permet de mesurer des chiffres et qui permet de voir si on est bien dans ses papiers, comme on dit, même si on est dématérialisé, on a toujours l'expression et à mon avis, elle restera encore quelques années. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est accompagner des entrepreneurs. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir où ils en sont aujourd'hui et où ils veulent aller demain. Donc, on fait des budgets pour tous nos clients.
Pour les 200 et quelques clients, tout le monde, sans aucune exception, a un budget.
Non, ce serait mentir. D'accord. Que de dire que tous les dossiers ont un budget. Je dirais 80% de nos dossiers ont un budget, okay. 20%, on ne va pas mettre des choses qui sont quand la personne démarre.
Oui.
Mais généralement, si elle vient ici en partant de rien du tout, elle va avoir un budget. Parce qu'en démarrant, il faut qu'elle puisse savoir comment elle va se projeter, quels sont ses besoins financiers, il faut qu'elle se fixe elle-même des objectifs pour mener son projet à bien. Donc, son premier budget, il est déjà dans l'étude de faisabilité de son projet.
D'accord.
Donc, d'accord. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais eu de budget, qui n'a jamais fonctionné comme ça, mais qui a une belle entreprise et où on sent qu'on va vraiment pouvoir lui apporter la plus-value dont il a besoin, et ça arrive très régulièrement, on ne lui met pas directement le budget. D'abord, on apprend à connaître son entreprise, la façon dont il fonctionne, la façon dont il est organisé. Une fois qu'on a fait cette première étude, on lui met en place un outil de mesure, un tableau de bord qu'on fait en Power BI sur mesure par rapport à son activité. Et une fois qu'on a trouvé le tableau de bord idéal pour lui, on le voit tout de suite parce que généralement le client devient très accro à son tableau de bord. Une fois que le client est accroché à son tableau de bord, alors on le voit et on lui dit « Et comment est-ce que tu vois l'année prochaine ?» Et là, on peut commencer à parler de… Mais il faut d'abord s'assurer qu'il est bien dans son organisation et qu'il a déjà une bonne compréhension de son business. Donc, il y a déjà une partie de coaching avant de parler de budget.
Pour accéder à plus d'interviews, de ressources et d'outils pour des experts comptables comme vous, inscrivez-vous sur notre site ecng.fr, EC comme expert comptable, NG comme nouvelle génération.fr, expert comptable nouvelle génération, ecng.fr.
À très vite.
Alors, si j'ai bien compris, quand tu me parles de budget, tu ne me parles pas d'un budget sur un fichier Excel dans lequel on va l'imprimer dans un business plan qu'on va donner au banquier. C'est un vrai budget vivant. C'est un budget qui est dans un tableau de bord.
Ouais. Ouais. C'est un budget vivant qu'on va pouvoir mesurer. À côté de ça, on a un autre outil. Donc, imaginons, à un moment donné, on s'aperçoit que le client va avoir des difficultés risque d'avoir des difficultés financières, s'il a des gros projets pour l'année suivante, alors on repart sur une étude de faisabilité, on dit oui, attention, là on sort un peu du cadre du budget, parce que là je ne suis pas sûre que tu vas avoir les moyens de mener ton projet à bien, ou en tout cas il faut se demander comment tu vas le faire. Donc à ce moment-là, on travaille alors sur l'évolution de la trésorerie. D'accord. Là, on va vraiment, alors budgétiser, mais encore d'une autre façon, beaucoup plus approfondie, on va imaginer comment vont se comporter ces liquidités au mois le mois.
D'accord.
Ça, on ne peut pas le faire comme ça, parce que c'est un gros travail, où on est très bien outillé pour le faire, on peut le faire, mais il ne faut pas faire des choses inutiles. Outil,
ouais.
Les entreprises, ouais. et pas de les... De faire des choses qui ne leur servent pas non plus, il faut que ce soit utile.
Bien sûr. Alors, il y a deux questions que j'aimerais bien te poser. La première, c'est est-ce que tes clients payent pour ces services, ou est-ce que c'est de la, c'est dans le package ou non? C'est quelque chose qui est valorisé dans les yeux des clients et ils payent pour ce service-là, tout ce qui est projection et tout ce qui est pilotage avec ces tableaux de bord personnalisés. Tu me parles de personnalisés. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, mais où est-ce que vous trouvez le temps pour faire ça?
Oui.
Si tu veux bien, réponds-moi d'abord à la première question, c'est est-ce que c'est valorisé? Est-ce que ce travail est payé?
Bien sûr, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, on a des ingénieurs de gestion qui travaillent dessus, mais c'est valorisé au travers d'un forfait.
D'accord.
Donc, c'est le forfait qui détermine, c'est compris dans le forfait. On n'est pas bon marché. On n'est pas bon marché.
Ok.
Compris dans le forfait. Mais il y a des tas de prestations qui sont comprises hors forfait.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'il y a un tableau de bord de base, mais quand le client a besoin d'un accompagnement plus spécifique, là, à ce moment-là, on fait un tarif horaire. Donc, il y a une lettre de mission qui est signée. On dit bien que dans le forfait, il y a évidemment la comptabilité classique et qu'il y a un tableau de bord de base. Mais maintenant, si le client dit, et c'est souvent le cas, il se prend au jeu et dit « Oui, mais oh là là, je voudrais mesurer ceci, ça, 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 ça. » Là, on lui dit « Là, on va sortir du forfait. » Mais généralement, je n'ai jamais eu un cas où, quand le client est content de son tableau de bord, dise « Écoutez, moi, ça peut arriver au début. » C'est déjà arrivé qu'un client dise bon, « En fait, le tableau de bord, je comprends pas très bien. » Alors, à ce moment-là, on le fait venir, on dit « Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» Et alors, ça veut dire qu'on n'a pas bien compris son business. Donc,
d'accord,
à ce moment-là, on refait un pas en arrière, on rediscute avec lui de toute son activité et on retravaille le tableau de bord. Ça, c'est déjà arrivé.
D'accord. Et quand on dit tableau de bord, est-ce qu'on parle de trucs génériques, genre voilà, la caisse, chiffre d'affaires, TVA, machin, ou parce
non,
que tu
non,
m'as parlé
non,
même
non,
de personnaliser, tableau de bord personnalisé.
On parle pas de fiscalité, en fait, dans le tableau de bord. Parce que j'ai constaté que quand on parlait de fiscalité, les gens, ça les freine.
D'accord.
Donc, on ne parle que de projets, on ne parle que d'activité et on ne mesure que des choses qui lui permettent de savoir, des choses qui l'intéressent en fait, des choses qui le soir il essaye de mesurer tout seul et qui lui prennent une plombe.
D'accord.
Et là, en un coup d'œil, il voit ce que lui cherche le soir à voir pour voir s'il est dans
Donne-moi deux ou trois indicateurs, par exemple, juste à titre d'exemple, qui ne sont pas fiscaux et que vous utilisez dans vos tableaux de bord pour que nos amis qui nous écoutent puissent comprendre un peu de quoi.
Alors, ça va être des calculs, par exemple, un entrepreneur, on va mesurer son charroi, on va mesurer la rentabilité des personnes, on va prendre des proportions de certains regroupements de charges, donc on les tire du plan comptable, on fait
d'accord,
une analytique.
Ça c'est de l'analytique quasiment. C'est...
qui fabrique des bonbons, par exemple. C'est la rentabilité des chics à la violette par rapport à la fraise.
Waouh. C'est de la production, quoi. C'est vraiment rentrer dans le métier de vos clients. C'est pas juste de la
fiscalité. Dans le métier de nos clients. Quand on fournit le premier tableau de bord, si le client dit j'ai pas compris, mais je te fais confiance, alors ça veut dire que l'équipe d'ingénieurs a travaillé pour rien. Donc je vais dire non. Tu reviens, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc nous, on ne va pas en arrière, on retourne dans son activité, on réfléchit avec lui, ça veut dire qu'on n'a pas compris son business. Donc ça veut dire qu'on ne lui a pas fourni le tableau de bord dont il a besoin. Mais une fois qu'on a répondu à sa demande, alors là, c'est gagné et c'est super, super, super intéressant.
Alors...
Ouais. Et ils sont notre meilleure carte de visite.
Excellent, excellent. Alors, tu m'as dit que tout est dématérialisé, il n'y a pas de papier, vos clients scannent, ne vous envoient pas les papiers, vous leur fournissez un tableau de bord, quelque part, vous n'avez plus besoin de les voir, vous les lâchez dans la nature.
Sûrement pas. Sûrement
d'accord.
Sûrement pas.
Vous les voyez ?
On les voit pour des choses intéressantes.
D'accord.
Donc, ça veut dire que le client qui se déplace pour venir déposer des papiers à la fiduciaire, il y en a encore peut-être 5%, et ce sont des personnes plus âgées qui vont terminer et qui ont un petit peu du mal. Donc on se dit de toute façon, voilà.
Ouais.
Mais ils sont très peu. Mais ceux qui, sinon les autres, on les a un petit peu poussés. Et puis les jeunes, alors là, on ne leur demande même pas leur avis, ils vont fonctionner comme ça, sinon ils ne sont pas entrepreneurs. Mais ils sont beaucoup plus contents parce qu'en fait, tout est scanné et mis dans une Dropbox qui sert de boîte aux lettres, et puis tout est récupéré et traité à la fiduciaire. Et là, pour ça, il n'y a aucun déplacement.
D'accord.
Donc, mais par contre, quand ils viennent, ils sont contents de leur rendez-vous parce qu'ils viennent pour quelque chose qui les anime.
D'accord.
Et donc, quand ils viennent, ils sont contents. Quand ils repartent, ils sont contents.
Mais dis-moi,
et en travaillant comme ça, par rapport à tout ce qui est impôt, comme on est toujours dans le moment présent et comme on est toujours dans les projets, on a une équipe de compta qui travaille sur la fiscalité, mais en temps réel.
D'accord.
Et donc, du coup, ils sont aussi super contents parce que déjà, ils ont leurs documents pour pouvoir travailler en temps réel. Ils sont contents parce qu'ils ont des clients qui sont contents d'avoir l'information avant et pas après. D'avoir le coût et les déclarations fiscales qui
sont à jour.
Beaucoup de comptables se font de manière assez facile puisque toutes les informations ont été données en temps réel. Ce qui a été plus difficile, ça a été cette transition qui a pris quelques années. Donc, ça ne s'est pas fait d'une année à l'autre.
D'accord.
Il y a eu toute une transition où il a fallu vraiment encourager les clients à déposer leurs documents de manière récurrente, de façon à avoir les moyens de leur fournir ce qu'on avait envie de leur fournir. Alors que la première génération de clients, j'ai envie de dire, et ça doit être pareil chez mes confrères, n'était pas spécialement très enclin à déposer leurs documents parce que quand ils déposaient, ils recevaient une TVA à payer, un impôt à payer, une régularisation de cotisation sociale. Quand vous savez que vous allez recevoir un coût, vous n'êtes pas très, très chaud, même si vous savez que c'est dû, même si on sait qu'on doit payer, c'est pas le souci, mais bon, c'est quand même pas, c'est humain, c'est pas, voilà. Par contre, quand vous donnez vos documents et qu'en échange, vous allez recevoir un tableau de bord sur mesure avec des graphiques, des choses qui vous parlent et qui vont vous permettre d'avancer, après, l'impôt va s'en suivre, mais bon, c'est pas ça que vous avez retenu. C'est que vous avez eu quelque chose d'agréable. Et donc,
super.
On est arrivé aujourd'hui à ce stade-là.
Excellent. Et tu m'as parlé de combien de rencontres par an avec les clients ?
4 en moyenne.
4. Ah ouais, super.
Clients. Et ce n'est évidemment pas que moi qui l'ai fait. Tout le monde fait ses rencontres. Mais parfois, ce qu'on fait très régulièrement, c'est que ce n'est pas toujours la même. Donc, il y a un compte-rendu qui est fait à chaque rendez-vous.
D'accord.
Et dans ce compte-rendu est mis le gestionnaire du dossier, qui lui est un comptable, est mis le juriste, est mis l'ingénieur de gestion qui est en charge du dossier. Il y a au moins 3-4 personnes.
D'accord.
Chaque personne a au moins un rendez-vous avec son client.
Excellent.
Parce que ça apporte au client une vision différente.
Ok. Alors, moi, j'ai envie de te dire, c'est le rêve de tout expert comptable d'avoir un cabinet comme le tien. Mais quand je parle avec beaucoup d'experts comptables, ils me disent, mais ça là, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, on n'a pas les collaborateurs. Nos stagiaires experts comptables, nos experts comptables, ou même les personnes qui sont dans le back-office et tout, malheureusement, ils ne sont pas, dans cette logique d'entrepreneuriat et tout. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Comment toi, tu as réglé ce problème?
Le premier que j'ai engagé, c'était il y a 5 ans. Donc, en fait, j'ai engagé une personne, une deuxième personne, une troisième personne, tous des comptables. Je ne suis pas manager de base. J'ai fait un petit graduat à l'époque en comptabilité. C'était sur 2 ans, donc c'est te dire mon niveau scolaire. Pour moi, je voyais pas d'autres profils que les comptables. Après, 5-6 personnes, je me suis rendu compte que j'étais la seule, et à un moment donné il y avait une charge de travail pour moi, et je m'étais juré que j'allais faire grandir mes comptables, et je me suis aperçue à ce moment-là que c'était pas possible de leur faire des prévisions. Ça les mettait dans une insécurité.
Pourquoi?
Il aime bien les chiffres, ça le rassure, et celui qui est rassuré n'aiment pas les prévisions, etc. Donc, ils ont difficile. Là, c'est vraiment une difficulté pour eux. Ils adorent les prévisions, mais quand elles sont faites. Mais eux, les réaliser, ils ont du mal. Et donc, du coup, par contre, au niveau de la fiscalité, nickel. Et alors, ils faisaient encore beaucoup d'encodage. Ils s'accrochaient à leurs encodages en disant « Oui, mais ça m'aide à comprendre mon dossier. Je dois maîtriser mon dossier si je n'encode pas moi-même, etc. » Donc, je leur ai bien expliqué que leur métier de comptable qui encodait, il allait disparaître. Mmh. Ceux qui ne l'ont pas compris ont quitté la fiduciaire. Il y en a eu quelques-uns qui ont dit j'avais une vision qui ne leur correspondait pas. Ils sont partis. D'accord. Ceux qui sont restés étaient d'accord avec moi. Et ils ont dit, mais on va faire quoi alors? Alors, je dis, alors il faut progresser. Alors, OK. Je me suis dit, ça ne va pas pour les plans financiers, etc. Je sentais bien qu'ils étaient dans une zone d'inconfort, et il faut que tout le monde soit dans une zone de confort. Mmh. Donc, j'ai dit, par contre, la fiscalité, les gars, vous allez jongler avec. Je veux que vous puissiez regarder un dossier, imaginer tous les cas de figure et optimaliser au maximum les dossiers. Mmh. Donc, ils sont partis là-dessus et je leur ai retiré tous les encodages. Pour retirer les encodages, j'ai commencé par engager des jeunes de la chambre belge. Mmh. Et dans notre équipe, il y a une dame plus âgée qui est très posée, qui explique très bien. Je l'ai déclarée mentor de l'équipe des jeunes stagiaires. Et elle est là pour leur apprendre leur métier de demain et les faire progresser. Et elle supervise leurs dossiers, etc. Donc, j'ai dédié une personne à l'apprentissage de nos jeunes. Oui. Et ce qui fait que tous les dossiers qui sortent de cette partie-là arrivent au gestionnaire de dossiers. Les encodages sont terminés et sont nickel. Donc, ils peuvent commencer à travailler sur leur situation, leur tableau de bord et tout ce qui s'ensuit. Et le bilan de l'année suivante, il est déjà fini puisqu'on fait des situations tout le temps.
D'accord.
Il ne reste plus que la partie fiscale. D'accord. Voilà. Après, par rapport aux prévisions, etc., là, il fallait que j'engage. Et j'ai engagé mon premier ingénieur de gestion qui était le fils d'un ami, mais qui était en admiration parce que je fais la comptabilité de son papa depuis des années devant le travail. Et il me disait toujours depuis tout petit, c'est ça que je veux faire, je veux travailler avec toi, je veux venir le samedi pour comprendre ce que tu fais. Uh-huh. Il était parti travailler à Bruxelles dans le secteur bancaire. Je l'ai fait venir, j'ai dit, ça t'intéresse toujours? Il me dit oui. Je vais faire quoi? Je dis, écoute, j'en sais rien. Mais tu es passionné, donc tu vas inventer ton métier. Il a relevé le défi et c'est lui qui a mis en place les premiers tableaux de bord en Power BI.
D'accord.
Donc, c'est lui qui a vraiment été l'élément qui a
développé. Et lui, il a quelle formation? Il est expert comptable ou non?
Non, il a fait HEC.
D'accord, ok. C'est un profil HEC que tu as en interne.
HEC, ça a été le premier.
D'accord.
Et puis après, on a quand même été très vite débordés tous les deux. Et donc, du coup, j'ai repris j'ai cherché plutôt un analyste programmeur.
D'accord.
Parce que je voulais absolument qu'on encode le moins possible. Et donc, j'en ai trouvé un, mais qui avait aussi fait un master en fiscalité HEC, donc c'est nickel.
Oui.
Donc, du coup, il est passionné d'entreprise et donc, lui, il met en place les tableaux de bord au niveau technique, mais il reçoit aussi les clients parce que il a cette envie de il est aussi passionné, donc il apporte aussi un côté d'analyse et d'expertise. Voilà. Okay. Et puis là, j'ai encore trouvé un autre jeune qui travaillait chez KPMG et qui a entendu parler par les gens qui travaillaient ici de la façon dont on travaillait ici. Et il s'amusait pas trop chez KPMG et donc il a postulé ici pour les mêmes raisons. Et ben là, ça fait 3 semaines qu'il est là, ça tombe un mois maintenant, un mois qu'il est là. Okay. Et ça se passe plutôt bien, il a déjà ses rendez-vous tout seul parce qu'il est... Il est très proactif et il apporte aussi des choses très chouettes.
Excellent.
Et on a aussi un juriste qui est un ancien avocat, mais qui est encore jeune quand même. Il a pas 40, il a 40 ans, je pense. Et lui, il était avocat, mais il n'aimait pas le conflit.
D'accord.
Il était passionné d'entreprise, donc il a d'abord quitté le domaine de l'avocat pour aller s'inscrire dans... Enfin, il est allé travailler chez un notaire, mais il s'est rendu compte que le notaire n'analysait pas les entreprises non plus. Ouais. Et donc, du coup, il est venu postuler ici en disant, voilà, moi, je suis passionné d'entreprise comme vous et je pense que j'ai quelque chose à apporter. Et de fait, il a aussi quelque chose à apporter et il apporte énormément. Super.
Alors, Raymond, là, on s'approche de la fin de notre podcast. S'il te plaît, on a parlé un petit peu de ton organisation, de comment tout est fait par rapport aux prestations que vous apportez aux clients. J'aimerais bien toucher un point qui est très important. C'est une question d'homme quand même, d'homme avec grand H. Comment tu gères le côté humain à l'intérieur de ton cabinet? Comment tu arrives à motiver ces gens-là, surtout que tu as des profils un peu disparates, hein, c'est pas un profil homogène. Comment tu fais?
C'est justement le fait que ce soit disparate et pas homogène qui fait la richesse des relations.
D'accord.
Et donc, en effet, j'ai des comptables, j'ai des ingénieurs de gestion, j'ai des juristes, ce sont des profils même humains différents. Il y a des personnes qui sont plus festives que d'autres, certaines qui sont plus réservées que d'autres, mais il y a une notion qui est importante, c'est le respect. Et chez nous, il est vécu au quotidien. Un des traits de caractère de mon équipe aussi, ce sont des gens francs, et ça, quel que soit leur profil. Et donc, quand quelque chose ne va pas, ils le disent, ils parlent entre eux, on est très fort dans la communication, ils brainstorment beaucoup entre eux, donc ça veut dire que les ingénieurs travaillent avec les comptables. A priori, c'est vrai qu'on pourrait se dire, les comptables, il y a des chats et les ingénieurs, c'est des chiens, et les chats et les chiens peuvent pas s'entendre. Eh bien, si. Et la nature nous le prouve tous les jours. Les chats et les chiens peuvent s'entendre. Ils ont des choses à s'apporter l'un l'autre. Et ici, c'est pareil. Et je dois dire que c'est une richesse extraordinaire. Aujourd'hui, je ne dois pas tirer mon entreprise, je dois la freiner parce qu'ils sont pleins d'énergie et ils viennent avec 1000 idées. Ils viennent avec 1000 idées et je dois les freiner. Et j'avoue que entre le moment où je tirais et le moment où je freine, je parlerai peut-être autrement dans quelques années, mais aujourd'hui, je m'amuse comme une folle. Ne regrette rien du tout.
Excellent.
J'en aurai juste l'évolution encore, parce qu'il y a encore plein d'idées là sur la table.
Ouais.
Et je dois dire que je m'amuse tellement que je participe à leurs idées et quand elles me paraissent bien. La seule chose, c'est que je leur dis toujours, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de l'échec, il faut surtout essayer, quoi.
Excellent.
Pour essayer.
Alors, s'il y a un message de fin, s'il y a, une croyance que tu vois chez des confrères qui est limitante, et s'il y avait un message fort que tu voudrais partager avec la profession pour qu'ils puissent un peu être dans cette dynamique, parce que bon, il y en a plusieurs qui sont dans une dynamique de dire punaise, il y a les plateformes qui nous attaquent, il y a la loi qui a changé, qui nous perturbe et tout, qui sont un peu dans une logique de il y a quasiment la crise dans la profession. Quel est le message principal? Quelle est la chose qu'on doit garder, la croyance qu'on doit garder qui nous pousse à aller de l'avant?
Je leur dirais de ne pas avoir peur du changement et d'engager des jeunes. On parle souvent, oh, les jeunes, la génération, enfin, il y a une grosse différence entre les gens de 50 ans et les gens de 25 aujourd'hui. Il y a eu une grosse différence. Moi, je suis née avec le téléphone où il fallait tourner avec ouais. les chiffres, et eux, ils sont nés avec le téléphone en main, avec le GSM en main. Mais c'est justement ces jeunes, avec cette richesse-là, si vous arrivez à engager des gens avec des compétences différentes, si vous arrivez à créer dans votre entreprise un univers dans lequel les jeunes ont leur place, où on respecte leur liberté, leur façon de fonctionner, la façon dont ils ont besoin d'évoluer, et que vous leur donnez l'opportunité de s'épanouir dans ce milieu-là, eh ben c'est juste magnifique à vivre et à regarder. Mais il faut oser le faire, et il faut oser aussi financer ça, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais si vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir aussi investir. Et investir dans cette génération et leur permettre de s'épanouir en respectant ce qu'ils sont. Ils sont fort différents, mais ils ont un bel avenir devant eux, et c'est eux qui vont changer le monde, et il faut les laisser faire. Il faut juste être le nid qui va leur permettre de changer le monde. Ce sera juste magnifique pour nos entreprises.
Excellent, excellent, excellent. Ça c'est vraiment, tu me l'as dit au début de notre échange, c'est l'esprit d'entreprise et l'esprit d'entreprendre, à la fois comprendre l'entreprise qu'on sert et avoir la même logique, ne pas être dans une logique un peu fonctionnaire, mais c'est une logique d'entrepreneuriat, de prise de risque.
Voilà, et cet esprit-là, il doit d'abord être chez nous. Parce que s'il n'est pas chez nous, c'est difficile de
le promouvoir.
On devient fonctionnaire alors. Ce n'est pas le même client. Le client, c'est l'État. Les bureaux que j'ai connus il y a 30 ans d'ici, leur client, c'était l'État. C'était le ministère des Finances. Notre client, c'est l'entrepreneur. Et nous sommes aussi des entrepreneurs.
Excellent, excellent. Raymond, je te remercie énormément, énormément. Tu nous as donné énormément de pépites. Je me réjouis que tu sois la première dans cette série de podcasts. Et je te dis à bientôt. Bien sûr, quand je vais poster ce podcast, je vais mettre les liens vers ton site internet, vers ton compte LinkedIn et tout. Je te dis bonne continuation, bravo et à très vite.
Merci à toi, Salah. Merci.
Pour accéder à plus d'interviews, de ressources et d'outils pour des experts comptables comme vous, inscrivez-vous sur notre site ecng.fr, EC comme expert comptable, NG comme nouvelle génération.fr, expert comptable nouvelle génération, ecng.fr. À très vite.